franceinter.fr.
Carnet de campagne, bonjour. Nous avons une réflexion aujourd'hui sur le sens de la formule circuit court. Et là, vous aurez noté qu'elle est souvent présente dans les actions valorisées par les carnets de campagne. On entend par circuit court proximité, relocalisation de l'emploi, localisation de la production, de la consommation. L'exemple qui nous vient à l'esprit est celui du réseau des AMAP, les associations de maintien d'une activité paysanne, car les AMAP épousent parfaitement ce concept de circuit court. Pour conserver un pied dans le Maine-et-Loire, fil rouge de la semaine, un site recense les 40 AMAP en activité qui font appel à 150 paysans et répondent à environ 4000 familles adhérentes dans le département. Cet annuaire bien pratique apparaît à l'adresse suivante, amap49.org. Toutefois, proximité, localisation et qualité ne suffisent peut-être pas ou ne suffisent plus pour définir les contours exacts des circuits courts. Nous faisons donc appel aujourd'hui à Françoise Bernon pour mieux comprendre la portée de cette notion très en vogue actuellement.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Françoise Bernon, bonjour.
Bonjour Philippe.
Françoise, déléguée générale du labo de l'ESS, avec lequel nous avons régulièrement depuis 2 ans des rendez-vous, pour vous entretenir de la situation de différents thèmes qui traversent ou jalonnent nos carnets, au particulier les circuits courts, parce qu'il va en être question aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que, François, j'ai reçu un courrier d'un auditeur, Pierre-François Philippe, je le cite, qui est paysan en AMAP, et il trouve qu'il y a des choses pas très claires. Je vous entends quelquefois parler de la ruche qui dit oui, comme d'une économie collaborative. Je permets de vous envoyer un article, alors un article très détaillé sur les limites de la ruche qui dit oui, qui ne respecte pas tout à fait les règles du local, puisque les produits peuvent circuler sur la plateforme de la ruche qui dit oui sur un rayon de plus de 200 km, même 280 km. Il dit là, le local, je suis désolé, hein, par rapport au circuit court, je comprends plus les distances et... A-t-il raison ?
Alors déjà,
je vous embête en vous posant cette question.
Non, pas du tout, mais c'est pas le rôle du labo de taper du sucre sur l'un ou l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qui évolue.
Non, mais je parlais de distance.
À travers là. Oui, mais justement, ce qui évolue à travers cette idée, le germe, je dirais, de l'approche en circuit court, qui vient des AMAP, et c'est vrai que c'est historique, c'est les AMAP qui ont commencé à nous faire réfléchir sur la notion d'alimentation territoriale, de relations producteurs-consommateurs, et ça, c'est très important. Mais le monde évolue, les choses avancent. Et maintenant, au labo de l'ESS, on avait dit, quand on a travaillé sur cette approche, j'aime bien dire approche économique en circuit court et pas dire le circuit court. On avait dit dès le départ, et on avait eu un échange ensemble sur le sujet, que c'est pas simplement le territoire, le périmètre, c'est pas que le territoire, le périmètre, si on utilise l'approche économique via des outils numériques, le périmètre peut s'élargir. Ce qui est important, c'est comment cet échange se passe. Et un échange en circuit court, pour nous, il crée du lien social, de la coopération des acteurs, de la transparence, d'où une équité dans les échanges. Et la ruche qui dit oui, je dirais, s'inscrit plutôt là-dedans. Alors après, il y a d'autres soucis dont il parle, mais moi, le souci, ce serait pas forcément le territoire. Sur le sujet, c'est peut-être la gouvernance, c'est peut-être l'organisation, le modèle économique et autres, mais pas forcément la notion de territoire, parce que le territoire peut être très large, y compris via du commerce équitable, donc des échanges nord-sud. Donc, l'idée première, les AMAP, le circuit court, on est sur un territoire donné. C'est vrai que la plupart des approches en circuit court, c'est ce qui nous intéresse. C'est le développement économique des territoires, c'est le lien entre les acteurs qui se forment sur des territoires. Mais soyons un petit peu modernes, allons vers autre chose, utilisons le numérique, voyons comment on peut élargir cette notion-là.
C'est là où je suis étonné, parce que du coup, on est perdu dans la définition même du concept circuit court. S'il a géométrie variable et qu'il peut s'adapter à une macroéconomie, en quoi est-il encore court ?
Alors, il est court s'il répond à ces 4 valeurs dont j'ai parlé. Le lien social, l'équité dans les échanges, la transparence dans les échanges et la coopération des acteurs. Et donc, pour nous, c'est l'épaisseur de l'échange qui nous intéresse. c'est vrai, revenons quand même sur la notion de territoire. C'est vrai que la notion de territoire est extrêmement importante quand on dit circuit court. Mais tout le monde a dans la tête, quand on parle de circuit court, cette définition un peu, caricaturale et simpliste du producteur au consommateur, où se retrouvent les AMAP d'ailleurs. Mais c'est pas uniquement ça. Ils transforment, ils transportent. Donc le circuit court, c'est pas du producteur au consommateur. Il se passe des tas de choses sur le territoire, même à partir des AMAP. C'est-à-dire que les AMAP vont commencer à s'organiser pour répondre à des questions d'alimentation dans des crèches, dans des maisons pour personnes âgées, etc. Et donc, ils vont organiser les choses. Ils vont organiser des structures intermédiaires qui vont transformer. Donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est chaque intermédiaire dans ces organisations circuits courts qui peuvent être inscrites sur un territoire ou plus largement via des échanges numériques. Comment se passent ces échanges et comment ils sont organisés?
Est-ce que, justement, alors, le circuit court avec cette ouverture-là ne risque pas d'être, mauvais jeu de mots, court-circuité par des entreprises qui peuvent adhérer aux grandes valeurs de l'économie sociale et solidaire sans pour autant épouser exactement les quatre fondamentaux que vous avez énoncés?
Oui, quel que soit le choix qu'on fait, il y a toujours des risques de court-circuitage, mais il y a une notion qui est importante, c'est la transparence. Les grands groupes, enfin les grandes structures vont pas forcément jouer la transparence. Donc là déjà, il y aura un souci, ils vont pas répondre à ce souci-là. Comment arriver à avoir un prix équitable? On se donne des informations, on échange, pas tout, on pose pas, mais enfin, on fait en sorte que les uns les autres y retrouvent leur compte. Et je voudrais dire une deuxième chose, c'est que le circuit court, l'approche économique en circuit court, c'est pas que l'alimentaire. C'est plein de choses aujourd'hui. C'est la finance. Revenons à l'idée de territoire. Comment on finance sur un territoire donné, avec le crowdfunding, avec des livrets d'épargne territoriaux, des projets territoriaux. Ouais. Comment cette finance va financer des logements coopératifs qui vont intégrer justement peut-être de la cuisine, je sais pas, des salles spécifiques. C'est tout ça, l'approche économique en circuit court. Et comment tout ça organise un cercle vertueux et comment les flux financiers finalement sont régulés, non pas pour s'évader dans des paradis fiscaux, mais sont régulés pour pouvoir nourrir le territoire économiquement, en emploi, en développement économique.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Françoise Bernon, déléguée générale du Labo de l'ESS, invitée des carnets de campagne, pour expliciter ce concept qui circule depuis longtemps, sans jeu de mots non plus, des circuits courts, vous l'aviez porté, mis en avant lors d'états généraux de l'ESS en juin 2011, vous parliez très exactement d'ailleurs avec le Labo de circuits courts économiques et solidaires. Alors effectivement, vous avez rapporté les possibilités d'ouverture, on est sur une micro, une mezzo ou une macroéconomie. Aujourd'hui, macroéconomie, exemple, les plateformes numériques, mais certaines peuvent valoriser des produits ou des échanges dits transparents, de proximité, qui relèvent encore de ce qu'on appelle des circuits courts.
En tous les cas, c'est ce que nous prônons. C'est ce que nous prenons. On a fait un travail de prospective. C'est intéressant de voir comment des structures d'économie collaborative, finalement, ont intégré cette notion de circuit court. Ont intégré l'idée que la gouvernance, la transparence de ce qui se fait, c'est pas simplement trois personnes qui vont investir financièrement sur un outil numérique qui va être finalement faussement utilisé avec les outils de chacun, où tout le monde va investir, où il y aura pas de contrat de travail et autres, mais non, comment ces acteurs organisent autour de cet outil numérique des réponses à des problématiques sociales, à des échanges économiques, et là ça devient intéressant, et on voit comment l'approche économique en circuit court nourrit cette réflexion sur l'économie collaborative.
Je vais prendre un exemple que l'on cite très souvent là dans la production d'énergie renouvelable, énergie verte, c'est Enercoop. Alors Enercoop, il s'agit de coopératives locales, de citoyens la plupart du temps, qui se constituent dans une région, dans un département, et qui vont adhérer à Enercoop, réseau national. Mais on est bien d'abord sur une production, on va dire locale, qui peut effectivement entrer sur le grand tuyau national. On reste malgré tout sur du local. Donc, le circuit court, lorsqu'il change d'échelle, c'est une multiplication des collectifs locaux, par exemple dans le cas d'Enercop.
Oui, c'est un très bon exemple. On travaille avec Enercop sur la transition énergétique citoyenne. Mmh. Comment les citoyens, on voit la coopération des acteurs là, comment les citoyens s'investissent dans ils sont pas consommateurs uniquement, ils s'investissent dans l'organisation de la production, des échanges, etc. Mais Enercop s'organise aussi nationalement. Donc on essaime, on fait des liens, on organise des réseaux, après on fait... Donc ça part, le cœur, le noyau, le germe de on n'en est plus simplement au germe, on est à la fleur, on est à la plante, on est en train d'organiser quelque chose. On transforme l'économie, ça il faut entendre. Moi je suis énervée quand on dit les circuits courts c'est des bobos qui veulent avoir leur petit panier. Mais non.
Et qui touchent le pompon
du producteur. Bon, ça c'est très énervant parce que ça veut dire qu'on n'a rien compris, c'est du mépris, c'est de l'incompétence.
Ouais, mais vous savez dans quel contexte c'est dit. Bon. C'est de façon à mettre deux types de production l'un contre l'autre. Et il y a la grande agriculture qui change d'optique régulièrement quand même, parce que la pauvre est quand même dans une impasse depuis longtemps. Et puis ce qui est considéré encore comme ringard, bobo, vieux.
Oui, tous ceux qui innovent sont considérés comme ringards, bobos, enfin tous ceux qui inventent, qui cherchent des nouvelles façons de faire, qui ont quelques valeurs, qui sont attentifs aux autres, au territoire. Enfin bon. Donc évidemment, on peut les traiter de bobos. Toujours est-il que ça s'inscrit dans la transformation économique en cours, toujours est-il que c'est toujours novateur, que c'est repris, malheureusement récupéré par certains, parce que l'économie collaborative des grands, elle a été inventée par des petits, mais il faut entendre que tous ceux qui innovent, tous ceux qui travaillent sur ces sujets-là, en ce moment, ils sont en train de transformer l'avenir. Et il ne faut pas les traiter de ringards, au contraire. Les ringards, pour moi, c'est ceux qui ne bougent pas, qui sont statiques, qui restent dans leur organisation et qui sont en train de mourir les uns après les autres.
Il y a un terme qui manque dans tout ce que vous nous avez dit, à mon avis, Françoise, c'est l'autonomie. Parce qu'en fait, le circuit court, c'est à quelle finalité ? C'est que chaque individu puisse vivre de façon, on va dire, autonome ensemble. Mais vous parliez de territoire, donc on est sur une superficie donnée, plus ou moins grande, mais c'est de gagner une autonomie. Exemple, l'ocavorisme, c'est une illustration aussi. Je reviens à l'alimentaire, mais c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit.
Oui, mais c'est pas ce que je mettrais en avant parce qu'on pourrait penser autarcie, enfermement. Enfin, moi, je dirais implication, investissement, organisation collective, intelligence collective et autres. Parce que finalement, l'autonomie, ça découle de tout le reste. On acquiert une forme d'autonomie, de penser, d'agir et autres parce qu'on s'organise derrière, parce qu'on est collectif.
Donc le temps. Un habitat partagé, par exemple.
C'est la résultante, mais de quelque chose qu'il faut analyser en amont, c'est comment on organise cette coopération. Des acteurs. Qu'est-ce que ça comprend, cette coopération ? Comment on organise la gouvernance des choses ? Où sont les flux financiers ? Comment on organise cette transparence entre les acteurs ? Et là, ça résulte à une autonomie de pensée, mais je ne voudrais pas qu'on enferme autour de ce mot autonomie, oui. Je trouve ça enfermant.
Ben merci d'avoir ouvert des fenêtres et de ne pas nous laisser emprisonner par des concepts qui parfois sont flous ou en tout cas ne sont pas pris dans le bon sens ou sont interprétés de façon un petit peu ridicule. Le site du labo de l'ESS, c'est labo-ess.org. Et merci à vous, Françoise.
Merci, Philippe.
Comme nous avons cité les coopératives de production d'énergie renouvelable dans cet échange sur les circuits courts, je termine par cet exemple qui s'inscrit dans les innovations citoyennes du département du Maine-et-Loire. On y revient juste avant le jeu. C'est Stéphane, habitant de Chemillé-en-Anjou, ville étape du jeu d'ailleurs demain et vendredi, qui nous confie une information sur Atouvent en Chemillois. Créée en 2010, cette association regroupe trois collèges, exploitants agricoles d'un côté, collectivités locales de l'autre, puis le troisième, les particuliers, les associations, oui, les artisans. Et elle a financé la création d'un parc éolien local. Le premier tour de pales a eu lieu, a été donné à la mi-septembre, en présence de 400 personnes devenues propriétaires de ce parc, de la Jacquerie, pour être précis, capable de répondre à la consommation de 8000 foyers suite au succès remporté par ce collectif. D'autres actions sont en route, dont la meilleure maîtrise d'énergie, l'animation innovante du territoire, et je donne une précision, quand même deux précisions. La principale valeur défendue par le groupe est le partage. Exemple, la participation des particulier à ce premier projet d'acquisition de l'éolien était d'être accessible à tous, quels que soient les moyens et les ressources, et la gouvernance est de type coopérative et démocratique sur le mode une personne égale une voix à tout vent en chemillois.fr pour l'adresse.